Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Havre.
Georges Quirino.
En direct du Havre, au village de la Transat Café Laure avec CMA, CGM. On est sur RMC et aussi en direct exceptionnellement sur BFM Normandie à la télé. On est avec Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Jérôme Pinault, le grand soleil sur le bassin Paul Vatine devant nous, les IMOCA, les premières embarcations qui commencent à bouger dans quelques instants. On ira en Autriche aussi parce qu'il y a le slalom géant masculin avec le retour d'Alexis Pinturo à Zolden sur le glacier de Reitenbach. On sera avec Léna Marjac avec nous. Et puis en fin d'émission, je vous rappelle, vous pouvez participer avec vos GG au jeu du sport. Vous pouvez remporter aujourd'hui votre aspirateur Cyclomax R15 Station signé Easy Clean. Je te rappelle que son aspiration cyclonique ultra puissante capture la moindre poussière. C'est important de le rappeler.
Jérôme, c'est parce que c'est une aspiration cyclonique.
Ça peut servir sur un IMOCA. Est-ce qu'il passe l'aspirateur d'ailleurs sur les bateaux? On va en parler dans quelques instants. Pour gagner votre aspirateur Easy Clean, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. On est rejoint par Johan Richaud mais Corentin Euro, le tandem sur l'IMOCA Paprec Arkea. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous? Là dans quelques minutes vous allez vous lancer, être avec nous là tranquille, on va rigoler alors que dans quelques instants vous allez affronter les mers de la Manche avant de s'attaquer à l'Atlantique. C'est quoi l'état d'esprit, Johan?
Bah, c'est relâché, ce qui est cool, hein. J'ai réussi à passer une bonne nuit et ce qui n'est pas toujours évident avant un départ comme ça, hein, surtout quand on sait qu'on part pour 24 heures de baston, c'est toujours un peu angoissant d'une certaine manière. Là c'est cool, on a un peu le temps, en plus on part à 11h20, nous, on a encore le temps. On regarde les copains partir en face.
On est tranquille.
Et on est tranquille, quoi, on est avec vous et ça fait plaisir franchement.
Corentin, ouais, c'est quoi l'état d'esprit là, tranquille aussi?
Ouais, c'est ça exactement, tranquille. Je sais que je pars avec un grand gaillard qui est Johan Richaume, donc ça va.
Vous avez déjà dormi ensemble ou pas?
On a déjà dormi mais chacun séparé dans une banette.
Ouais, on a déjà passé deux mois ensemble sur le bateau là.
Oui, parce que je veux dire, la veille vous faites déjà.
Ah non, la veille ça va,
chacun chez soi.
Allez, tout de suite, les amis, on vous a fait venir pour participer à un moment bien particulier des grandes gueules du sport. C'est le vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Un moment où on partage sur nos expériences pour un petit peu comprendre ce qui se passe dans la tête des athlètes en activité, ou ceux qui ont déjà posé la raquette, le ballon, le vélo.
Mais
cette semaine.
Mais aussi, on est encore en activité.
Activité
c'est juste
de haut
activité,
niveau. Tout de suite, la susceptibilité des
gueules. C'est dingue.
Incroyable. Cette semaine, on va parler justement de ce qu'on a expliqué. Comment créer une cohésion d'équipe. Alors, vous allez partir, Johan et Corentin, pour quelques jours ensemble dans un petit espace. Comment créer une cohésion d'équipe. Corentin, on y pense, ça aussi, faut bien s'entendre sur un bateau. Attention à ne pas dire de bêtises maintenant, parce qu'après, vous êtes ensemble pendant un petit moment.
Hein. Ouais, mais c'est bien, ça fera des petites histoires à se raconter sur le bateau. Mais non, c'est au moment de s'engager, quand on a une proposition, par exemple, de partir avec Johan. Moi je connais la personne, je sais comment il réagit, je le connais depuis 10-12 ans maintenant quand on était en Figaro, quand on était plus jeune, donc voilà, je savais que ça allait bien marcher, ça marche bien pour l'instant, mais voilà, on a une belle transat devant nous et puis on pourra vous dire à l'arrivée comment ça s'est passé, mais non, il faut essayer de s'adapter en fait, faut essayer de s'adapter à l'autre et puis des fois faire des concessions. Et...
C'est qui le patron, parce qu'il faut une hiérarchie, nous dans les vestiaires de basket on a une hiérarchie, on sait qui est le patron, c'est qui le patron sur le bateau.
C'est Yo-Yo le boss, hein, ça c'est sûr, hein. Donc voilà, moi j'apprends plein de choses à ses côtés et puis j'essaie de lui apporter ma petite patte aussi, donc non c'est lui le patron, mais oui, comme tu dis, c'est bien d'avoir une hiérarchie et puis dans toutes les décisions stratégiques, météorologiques, au final on peut discuter. C'est lui qui
en fait, vous pouvez discuter, mais c'est lui qui décide, quoi.
C'est lui qui tranche.
Ouais, mais on est quand même plus intelligent à deux.
Oui, surtout quand c'est toi qui décides, c'est plus facile à dire.
Yoann, il a raison, il fait de la politique avant de partir. Il va pas dire je suis le grand patron.
Imagine, il s'embrouille juste avant.
Yoann, comment on choisit son coéquipier quand on sort d'un Vendée et qu'on part pour une saison en double? Est-ce qu'on le choisit sur le plan technique, c'est-à-dire le skipper, le navigant? Où on choisit aussi sur la relation humaine, quelle est la part de l'un par rapport à l'autre?
Presque 50-50 au final. Hein. Ouais. Alors, tu as deux trucs. Tu as un peu le marin dans ses qualités, dans ce qu'il a fait avant. Donc, nous, on sort de la solitaire du Figaro. Donc, on a un peu les mêmes formations. On est au même centre d'entraînement à Port-la-Forêt. Donc, on est dans le même moule. Donc, on sait que déjà dans la réflexion, tu vas dans les mêmes lignes. Il y a l'engagement, l'intensité, les résultats qu'il a pu avoir. Après, il y a le côté technique d'utilisation de ces bateaux-là. Et là, c'est plus délicat parce que les bateaux, ils sont super compliqués et c'est pas n'importe qui déjà peut monter à bord, et encore moins n'importe qui ne peut monter à bord et être percutant tout de suite.
C'est vraiment en quelques mois, en fait.
Ouais, et ouais, bah, c'est ça. Là, ça fait 4, 5 mois. Ouais. Et donc, ça, c'est compliqué. Donc, moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'ai fait appel à Yann Eliès qui, lui, était rodé dans cette catégorie Emoca. Lui, il m'a appris, il m'a passé la main. Maintenant, je suis assez autonome, on va dire. Et donc, moi, j'avais cette maîtrise de la technicité et j'avais pas de souci à avoir quelqu'un qui l'avait peut-être un peu moins, mais par contre qui avait ce côté engagement, sport, combat qu'a Corentin. Puis en plus d'être un mec sympathique, c'est vrai que ça fait 10-15 ans qu'on se croise sur à peu près tous les plans d'eau. En fait, c'est ça qui est assez spécial, ouais, voile, ouais. C'est que tu choisis un coéquipier pour tes épreuves en double qui en fait est un adversaire le reste du temps.
Ben oui, parce qu'en en plus, Corentin, tu vas garder le bateau derrière pour faire le Vendée Globe où vous serez adversaire, parce que Johan, tu seras sur une autre embarcation pour le prochain Vendée.
Ouais, exact. On construit un nouveau bateau.
Non, mais c'est-à-dire que là, on parle de cohésion d'équipe. Tu te dis pas, faut quand même pas que je lui montre tout sur le bateau.
Ouais, sauf que
Vendée Globe, je vais pas lui montrer le booster là, que je l'ai caché.
En attendant, on doit gagner des régates.
Bien sûr.
On est quand même là pour ça, donc tu vois, non. En fait, bah, du coup, tu peux pas cacher grand chose. Enfin, sinon, c'est complètement nul.
Et en arrivant, tu le sabotes.
Après, je le coule.
Oh, Fort de France, blâme. On est avec Johan Richaud et Corentin Hérault-Tendel sur l'IMO Cap après Carcassonne. On est dans le vestiaire. Comment créer une cohésion d'équipe, Jérôme?
Pour compléter ce qu'a dit Fred, la cohésion d'équipe, et on a pu discuter avec Johan, ce qui m'a beaucoup plu dans son état d'esprit, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est qu'il a l'esprit de compétition. C'est-à-dire que lui, il vient pas pour participer, il vient pour gagner. Et je crois que dans le choix de son binôme ou dans son team, t'as aussi besoin d'avoir le même état d'esprit, c'est-à-dire où on va tous ensemble, et le cap commun, c'est la gagne, ou c'est apprendre, ou c'est grandir.
Attends, mais dans une équipe cycliste, ça se passe comment?
Dans une équipe cycliste, comme
vous êtes plusieurs, plus hein, vous
oui,
êtes 8, 9
et, dans, et, dans, et dans une équipe, quand tu fais une sélection parmi 25 coureurs, t'en prends 8 pour faire un Tour de France, c'est où on va tous ensemble. Il faut avoir absolument le même objectif commun.
Ouais, mais attends, là c'est pas la même chose, parce que dans le cycliste, t'en as qui se mettent au service de celui qui doit gagner.
Part,
c'est
là,
encore
ils vont
différent.
Se mettre au service l'un de l'autre pour aller vers la gagne.
Oui, mais ils vont être deux sur le podium.
Mais ils vont être deux, mais ils vont partager leurs connaissances pour aller gagner. Si tu n'as pas le même état d'esprit, t'en prends un qui veut apprendre et l'autre qui veut gagner. Si t'es pas tous les deux dans le même état d'esprit sur le quai en disant on y va et on va leur éclater la tête, on veut gagner, tu gagnes pas. Enfin, j'imagine. Ouais,
tu vois, au cyclisme, je pense que t'as tes 8 coureurs pour le Tour de France, mais en fait t'as tout ton team qui est derrière.
Bien sûr.
Et si tout ce team-là, il est pas dans la même lignée que toi,
exactement,
tu vas dans le mur. Ça, tu le sais. Et nous, c'est pareil. Nous, on a 17 personnes derrière nous. Et c'est pareil, tout le monde est focus dans le même objectif. Et donc oui, nous on va être les deux sur le podium, mais en réalité c'est toute l'équipe qui est drivée dans le même sens. Et bien sûr, il y en a 15 qui sont dans l'ombre.
Et la construction d'un futur projet comme tu as aussi avec le futur bateau, j'imagine qu'elle est déjà comme ça. C'est-à-dire que quand tu construis un projet, que tu repars pas à zéro mais avec un nouveau bateau, tu es obligé d'emmener avec toi des gens qui sont focus comme toi sur la réussite, sur la gagne, ouais, avec ça, un objectif.
Il y a aussi le problème de l'ego. L'ego, c'est hyper important, parce que là, comme tu l'expliquais, t'es le numéro 2 entre guillemets. C'est pas toi qui vas prendre les décisions, il faut l'assumer aussi. Il faut savoir où on en est dans sa carrière, il faut savoir ce qu'on veut, parce qu'on parle d'objectif, c'est hyper facile au départ.
Dans le basket, comment... ça se passe comment? Dans le basket, vous avez des stats individuelles, c'est très important. Il y a quand même des capitaines qui prennent des décisions.
En fait, nous, il y a vraiment une hiérarchie. Nous, on appelle ça le go-to guy, le joueur qu'on va utiliser sur les derniers instants. On sait que c'est lui qui va décider. Il y a ensuite une sorte de capitaine qui lui va générer cet esprit collectif.
Chacun sait ce qu'il a à faire,
mais chacun a un rôle en fait au basket. On a vraiment tous le même rôle, et on doit avoir un ego aussi surdimensionné d'un côté, mais de l'autre côté s'adapter aussi, parce que bah, tout le monde ne sera pas la star de l'équipe en fait.
Corentin, on disait il y a quelques instants peut-être sur la hiérarchie sur le bateau, mais vous savez aussi exactement ce que chacun doit faire, ou c'est assez flexible sur le bateau pour qu'on comprenne bien?
Non, bah, pour comprendre, c'est que en général, quand on fait du double, on dit que c'est du faux solitaire. Donc pendant qu'il y en a un qui est sur le pont à essayer de faire marcher le plus possible le bateau, il y en a un autre qui dort. Donc bah, il faut être hyper polyvalent et savoir un peu tout faire. Alors après,
ça veut dire quoi du coup? Vous êtes jamais vraiment ensemble en fait? Presque.
En théorie, on pourrait ne faire que se croiser.
Ouais.
Alors ça veut dire que tu dors 12 heures par jour. Ce qui commence à faire beaucoup.
En fait, tu rentres, t'es reposé quoi.
Ouais, pas tout à fait. Mais après, c'est. Des fois, c'est un petit peu plus freestyle, on va dire. Par exemple, là, sur le tout début de course, on va prendre 35 nœuds avec des rafales à 45 nœuds, donc ce qui est du vent très très fort. Donc là, pour le coup, on risque de pas dormir du tout. Ou alors des toutes petites siestes, on sera à deux sur le pont pour essayer de sortir du vent fort le plus rapidement possible et d'être le plus devant possible aussi par rapport.
En fait, on s'adapte tout le temps. T'as un plan de base, ça on le connaît. Tu vois, tu veux dormir 2 heures, faire 2 heures de carte, reposer 2 heures, te croiser pendant les repas, pour faire un peu de météo et tout ça, discuter la stratégie, voir ensemble.
Vous dites parfois on bouffe ensemble hein.
On mange juste midi.
Les mecs s'envoient un message sur le on mange ensemble.
T'es où? Tu dors où? Tu fais bouillir l'eau là, on se les pattes.
C'est un peu ça. Non, puis voilà, du coup, on essaie de passer des moments conviviaux ensemble. Mais c'est vrai que le début est spécial parce que t'arrives à peine à dormir. Donc là, on va se cramer, on le sait, pendant, je sais pas, 2, 3, 4 jours. C'est vraiment dense. Ça, c'est un exercice auquel on est vraiment rodé. Et derrière, on va avoir un moment où on va vouloir récupérer. Puis après, sur la fin, généralement, t'es plus dans la lisée, c'est plus cool, là, c'est un rythme posé, quoi.
Non, mais c'est vrai que ce qui est fascinant pour vous, les gars, c'est qu'il y a des moments de tension qu'il n'y a pas dans d'autres sports, hein, parce que vous êtes livré à vous-même, je n'ai pas envie de dire ça, mais c'est un peu ça quand même. Ou si effectivement.
Attention à toi quand même.
Non, mais si les conditions sont extrêmes à un moment, attention parce qu'à côté de Fred, les conditions sont parfois extrêmes, il y a des décisions à prendre très rapidement. Enfin, donc, il faut qu'il y ait une symbiose, en fait. C'est une symbiose qui est entre vous.
Ouais, c'est une symbiose. Alors,
toi, tu montes là-haut, toi, tu vas là, toi, tu fais ça, tu regardes les cartes.
Ouais, là, tu parles d'un moment de panique, là, carrément.
Ouais, mais ça existe. Ouais,
ça peut exister.
Ça existe pas dans les autres sports, en fait.
Ça peut exister. Ouais, j'ai pas d'exemple en tête, mais oui. En fait, t'as une particularité.
Mais tu vois, par exemple, on a parlé tout à l'heure on vous le souhaite pas, évidemment, mais on a parlé de ce qui s'est passé cette nuit avec des chavirages. Il faut prendre, on était avec Arwen Leroux, qui nous a parlé des décisions à prendre. Vous êtes prêt à ça aussi, dans la cohésion, en tout cas.
Ouais, généralement.
Ça fait partie des automatismes, sinon, c'est plus naturel dans le moment.
Et c'est pour ça qu'il y a un leader aussi. C'est parce que t'as pas le temps de te concerter tout le temps. Il faut qu'il y en ait un qui puisse prendre des décisions à un moment, j'imagine.
Exact. Comme dans beaucoup de situations de crise, moment, t'as un leader et il faut le suivre. Et puis, que ça soit la bonne ou la mauvaise, mais au moins, il faut avancer. Quoi.
Exact.
Mais nous, alors, du coup, on a une particularité. C'est qu'en fait, t'as de la réflexion temps long. Là, on veut aller tirer, un bord vers la Bretagne Nord, puis ensuite au large des Açores, le machin, le truc. Et en fait, de la réactivité, oh putain, il y a un nuage qui passe, le vent tourne, il faut réagir tout de suite, il faut virer de bord, etc. Et donc, tu es un peu dans deux temporalités permanentes, quoi.
Ce qui est important dans tout ça et dans toutes les disciplines, et on revient toujours à la même chose et aux mêmes valeurs de base, c'est le choix de l'homme. Le choix des hommes ou le choix de l'homme. Avec qui je m'embarque dans cette histoire? Comment on va réagir? Et surtout, apprendre
Ton gars, c'était Sylvain Chavanel. S'il n'était pas là, t'étais pas bien.
Ouais, ça peut être ça, ça peut être les gens avec qui j'ai travaillé. Tu sais que si ça se passe bien, tout va bien rouler. Est-ce que quand ça va être dans le dur, comment on va réagir l'autre? Parce que l'homme, quand ça va bien, tout va bien.
Mais toi, c'est quand même...
c'est dans le dur que dans le management. Moi, il y a eu des moments de crise, quand j'étais manager que coureur d'ailleurs. Quelle décision on prend? Et là, tu vois les gens, les mecs qui se tirent. Bon, tu dis eux, c'est pas la peine.
Mais l'essence du vélo, c'est quand même un sport d'équipe. Quand même, même si certains le sentent pas forcément. Alors, par exemple, dans le tennis, Sarah, on vous connaît surtout pour le côté individuel, les parcours en simple. Après, vous vous retrouvez parfois en équipe. C'est un autre sport.
Tu joues en équipe quand tu joues pour ton pays, en fait. Mais les motivations sont différentes. Et puis, tu as du coaching, en fait, que tu n'as pas le reste du temps. C'est là où il y a un vrai apport. C'est-à-dire que tu as quelqu'un à côté sur la chaise qui peut réajuster quand il y a le moment de panique. Alors, on ne parle pas du même type de panique que quand on fait de la voile. Mais quand il y a un moment de panique, t'as quelqu'un qui peut te faire redescendre. Et puis t'as l'émulation du groupe. L'émulation, Johan disait que vous gagnez pas à 2, mais vous gagnez à donc 17 plus 2, c'est ça? À 19. Quand tu joues au tennis, tu gagnes plus tout seul. Et c'est là que ça te donne vraiment une source de motivation supplémentaire. Parce que tu les entends, ils sont là. Parce que tu n'as pas le reste du temps.
Après, t'as quand même derrière toi, ça, même quand tu joues au tennis, t'es un sport individuel. T'as quand même derrière toi des gens qui travaille dans ta prépa, dans ton suivi, dans ton psycho.
C'est toujours une équipe.
Il y a toujours une équipe.
Tu gagnes jamais tout seul.
Et dans ces cas-là, quand tu vas moins bien, si tu sens que le coach il regarde ailleurs pour aller coacher quelqu'un d'autre, que ton kiné n'a plus de temps pour toi, que ton prep mental, tu te dis, je me suis trompé dans les choix. Je pense qu'on est tous faits du même bois, c'est-à-dire qu'on a besoin, surtout quand ça va mal, de gens solides.
Non, mais quand ça va mal aussi, alors dans le sport on parle beaucoup de santé mentale actuellement aussi, il faut résister aussi dans la tête. Il y a un côté très psychologique, je pense aussi, quand on est un tandem, on est attentif à la psychologie de l'autre. Si ça va un peu moins bien, faut que j'en fasse un petit peu plus, je sais pas, Corentin.
Ouais, c'est sûr qu'il faut s'adapter en permanence et puis on peut se soutenir dans les coups de mou. Quand on voit que l'autre déraille un peu, on le remotive, etc. Donc voilà, mais ouais, c'est moi je dirais que le maître mot, c'est de savoir s'adapter à l'autre. Et puis, je parlais de l'ego aussi, des fois il faut mettre un peu son ego de côté.
C'est difficile.
Ouais, bah après.
Parce que quand on fait un métier comme le vôtre, on a forcément de l'ego. Et me dites pas le contraire, forcément de l'ego. Parce que je vois Jérôme Pinault, par exemple, il a un ego surdimensionné. Donc j'imagine que s'il faisait quelque chose d'aussi dangereux que vous, il en aurait encore plus. Bien donc sûr. J'imagine que ça doit être difficile. Est-ce que parfois tu te dis, je devrais être numéro 1 ? Ou est-ce que parfois tu te dis, après ce duo-là, je serai numéro 1 dans l'équipe que je veux montrer ? C'est ça que tu dis ?
Fred, c'est vraiment.
C'est
par leadership.
Non, mais si, c'est vrai.
Non, c'est hyper important, le leadership.
On sait qu'on veut arriver à ça. Et puis. Ça va arriver bientôt après cette transat, mais pour l'instant on respecte et voilà, moi c'est leur projet entre guillemets, alors j'ai eu la chance de l'intégrer et de découvrir ça, que c'était une équipe magnifique avec plein d'individualités très très fortes, mais pour l'instant voilà, je suis au service de cette équipe et plus que de Johan, voilà, je dirais que je suis au service de cette équipe.
Ouais, plus que de Johan, c'est
bien foutre la
merde.
Cet égo
on va voir un peu comment ça se passe.
Cet égo dont on parle beaucoup, et comme tu dis Fred, on a tous évidemment de l'ego quand on est sportif de haut niveau. Je crois qu'il y a presque un vrai débat là-dessus, c'est la gestion plus que de l'avoir. L'ego, on l'a tous. Dans la gestion, après, c'est de savoir quelqu'un qui a énormément d'ego dans le moment où il sent qu'il perd l'autre, où il a besoin de son équipe, le gérer plus que de le mettre de côté. Tu le mets jamais de côté. Quand tu prends une décision de leader, c'est pas de mettre en avant ton ego, c'est d'assumer. Et quand tu fais une décision collective, tu mets pas de côté. Tu penses collectif, tu le gères, mais tu mets jamais ton ego de côté.
Oh là là, mais quel discours de manager. J'ai les frissons en écoutant Jérôme. Merci.
C'est le froid, ça, c'est le froid.
Johan Richaume, Corentin Auro, le tandem de l'Imoca Paprec Arkea. Là, vous partez, 10h25, vous partez dans moins d'une heure, les gars. Merci d'avoir été avec nous quand même. Alors que c'est des moments précieux pour partager ce moment. C'était hyper intéressant sur la cohésion d'équipe. J'espère que vous qui nous écoutez, maintenant vous savez un petit peu mieux comment on fait corps ensemble. Merci et bonne route, les gars.
Non, tu dis bon vent.
Bon vent.
Ils prennent pas la route. Hein.
Mais on va voir.
C'est pas du tout le sport.
Qui arrive là-haut. Lui, il arrive. Il vient de découvrir des
mâts. Il y a des grands mâts.
Il a vu des bateaux. Je savais pas que les mâts c'est pas comme dans les bateaux d'Astérix là où il y a un mec. En haut, qui dit, oula.
Et il n'y a pas de drapeau à la tête de mort, c'est très bizarre.
Pierre-Yves Leroux avec une embarcation, tu es avec Sam Davis et Violette d'Orange qui vont s'élancer également dans quelques instants.
Exactement, sur les pontons ici au Havre, à côté de ce beau bateau Initiative Cœur, Sam Davis, Violette d'Orange, un nouveau duo qui va s'élancer. Sam, bon, vous avez le sourire, on vous sent pas trop stressé avec Violette. Violette a fait un dernier câlin à son chien, voilà, tout se passe bien.
J'enlève les petites poils de chien.
Il y a quand même un petit peu de stress avant. On a parlé des chavirages là il y a quelques temps. Alors c'est les multicoques, c'est pas pareil, mais même pour vous, j'imagine que vous allez être attentif.
Pensée à eux, ils ont passé une nuit difficile. Je pense que nous aussi on va passer une nuit difficile aussi la nuit qui vient, donc forcément un petit peu de stress. Faut prendre soin du bateau, mais on toutes les deux on revient d'un tour du monde Vendée Globe, et sur ce bateau Initiative Cœur, je pense qu'il a vu pire que ça l'hiver dernier, donc j'ai confiance, mais oui, il faut rester concentré, et on sait que ça va être difficile les 36 heures à venir, mais aussi je suis trop contente d'être là, prêt à partir enfin.
Avec Sam Davis, Sam, tu pars avec Violette d'Orange. Alors c'est les plusieurs générations là qui se retrouvent sur un bateau. On parlait il y a quelques instants de la cohésion d'équipe avec Johan Richaume et Corentin Auro. Comment ça se passe entre vous là, entre l'expérimenté et la jeune pépite Violette qui arrive sur la course au large aussi?
Ah ouais, ça se passe super bien. Moi, je juge que Violette, elle a déjà fait plus qu'un tour du monde. Donc, on a toutes les deux expérience. Mais c'est sûr qu'on n'est pas du même génération. Et j'ai fait un peu plus de transat et un peu plus de tour du monde que toi, Violette. Mais c'est chouette de se retrouver ensemble, de pouvoir faire ce duo et puis permettre Violette aussi de faire ses premiers pas sur un bateau à foil. J'ai essayé de montrer comment ça marche, et on a beaucoup entraîné cette année, donc ça va être chouette de continuer cet apprentissage. Et moi aussi, il reste encore énormément de choses à apprendre, et Violette, elle apporte beaucoup au projet, donc c'est trop bien.
On va l'écouter, Violette. Pierre-Yves, peut-être, non, tu peux lui passer le micro dans
oui,
direct.
Hein, bonjour.
C'est ça. Ah, bah, tu nous entends, Violette.
En fait, elle a le casque de Pierre-Yves, il ne vous entend plus.
Ah, il ne vous entend plus, Pierre-Yves. C'est bien comme ça, on peut dire des choses sur Pierre-Yves. On n'a rien dit de mal sur Violette avant qu'elle arrive. Violette, du coup, je vais te poser un petit peu la même question. Tu es avec une légende, là, avec Sam Davis, avec toi, une légende du course au large. De la course au large, c'est comment de partir à affronter l'Atlantique avec Sam?
C'est une chance. J'ai une chance incroyable d'avoir pu, à la suite de mon Vendée Globe, pouvoir intégrer un si beau projet, un projet que j'admire depuis que je suis toute petite. Et puis Sam, c'est vraiment, elle fait partie des femmes qui m'ont donné envie de faire de la voile. Donc c'est juste magique. J'apprends énormément de choses tout au long de cette année, et puis encore en mer, je vais apprendre encore plein de choses. Donc je suis très très heureuse, et j'ai surtout envie de tout donner, parce qu'on commence dans des conditions assez costauds. Donc il va falloir être dedans dès le début.
Violette, on t'a beaucoup suivi. Évidemment, t'es la Benjamine du Vendée Globe. Il y a une bonne partie du public qui a été vraiment à fond avec toi sur la dernière traversée autour du monde, notamment à travers tes images sur les réseaux. On va vous suivre pareil là. Vous êtes fait des petites sessions TikTok avec Sam avant de partir, ou comment ça se passe, Violette?
Non, c'est tout simplement, on va essayer de partager notre aventure quand on sera en mer, en envoyant des vidéos, des photos quand on peut, parce que c'est pas toujours facile quand c'est la tempête, ou quand on est concentré sur la course. Mais voilà, on va faire ça simplement le plus authentique possible, et j'espère qu'on pourra partager notre aventure au public.
Sam, d'ailleurs, la course au large a un peu changé aussi depuis quelques années. Je me rappelle, il y a quelques temps, on avait seulement les vacations, on vous entendait au bout du monde. On n'entendait pas très bien, on entendait ouais, on passe le cap-horn comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est très équipé. Ça change aussi le rapport à la course au large, le fait qu'on est peut-être plus connecté à la terre aujourd'hui, on a plus de moyens.
Ah ben oui, on est plus connectés. C'est sûr que ça change les choses. On se sent un petit peu moins seul. On a les antennes satellites qui nous permettent d'envoyer des beaux vidéos maintenant, où c'était un peu compliqué à les compresser, à trouver les solutions avant. Donc ça, c'est top. Moi, j'adore le partage. Je trouve qu'on a trop de la chance d'aller faire ça nu. Et si on peut essayer d'emmener un peu tout le monde avec nous, ceux qui n'ont pas la chance d'être là, ou qu'ils n'ont pas envie de se faire secouer comme nous, mais qui aiment bien suivre. C'est chouette de pouvoir partager tout ça, et tant mieux pour le projet Initiative Cœur, parce que nous, on a besoin de ce partage, parce que on compte sur tout le public pour le soutien, pour sauver les enfants. Nous, on défend la cause mécénat chirurgie cardiaque, et nos partenaires, ils donnent tous 1 euro pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux. Donc nous, on promet en échange de faire beaucoup de partage, envoyer des vidéos, et puis comme ça ça marche très très bien pour ce projet. On va essayer de sauver 20 enfants cette fois pour mécénat chirurgie cardiaque,
pour une bonne cause, en plus important de partir au large. Merci beaucoup, Violette d'Orange et Sam Davis. Partagez tout ça, on sera ravis de vous suivre, et évidemment pour Initiative Cœur, donc, et votre IMOCA, c'est pour une bonne cause. Donc on va suivre ça avec encore un peu plus d'intérêt. Merci à vous, et merci à Pierre-Yves Leroux de vous avoir mis en direct, et bon vent,
merci,
comme on dit, effectivement, pour partir dans moins d'une heure maintenant. C'est fou ça, moi je trouve ça toujours complètement fou.
Ce qui est incroyable, c'est de les voir défiler ici avec nous, décontractés,
et
qu'ils ont trois collègues qui ont fait la crêpe. Ouais.
C'est très comment dire, c'est très différent, ça dépend. Moi hier, j'étais aux côtés de ceux qui partaient pour les Ocean 50. Les réactions sont totalement différentes. Moi, j'avais un skipper, il voulait pas que sa femme et ses enfants descendent sur le ponton.
Ça va comme dans la vraie vie, chacun a des comportements différents par rapport au problème.
Il y en a qui ont besoin effectivement de communiquer, et puis d'autres qui ont besoin de rentrer dans une bulle. Donc c'est les réactions de départ sont totalement différentes.
Ouais,
mais c'est quand même une forme de départ et de déchirement, quoi qu'il arrive, chez tout le monde.
Hein. On est au Havre pour le départ de la Transat Café Laure. C'est à 14h et on voit défiler les skippers et skippers notre micro. C'est assez fascinant, évidemment. Dans quelques instants, on va aller à Abu Dhabi, puisqu'on va parler de MMA. Et Cyril Gane avait une chance, la troisième, de décrocher une ceinture UFC. Et ben, le combat s'est arrêté, pas de vainqueur, parce qu'il y a une histoire de doigts dans les yeux. Alors, complètement invraisemblable. On va essayer de tout comprendre ensemble, et essayer de comprendre aussi si on peut se relever de cette situation ubuesque. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport, en direct du Havre.
Georges Quirino.
sous le soleil, un peu frais quand même, un petit peu de vent pour le départ de la Transat Café L'Or. Fred Veil, ça a dit qu'il est plus dans un gymnase.
Mais moi j'ai froid. Hein.
Eh oui,
bien sûr, j'ai pas l'habitude.
Fais pas 40 degrés toute l'année.
Toute l'année.
Sarah Pitkowski, Jérôme Pilot, on est fasciné de voir les skippers et skippeuses venir au micro à quelques minutes seulement de s'attaquer à cette transatlantique. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct du village de la Transat Café L'Or avec CMA CGM sur BFM Normandie aussi. En direct à la télévision en plus d'RMC. En fin d'émission tout à l'heure, vous pouvez participer au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, vous pouvez remporter votre aspirateur Cyclomax signé à Easy Clean. Pour le gagner, participer, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Mais tout de suite, les amis, c'était hier à Abu Dhabi sur les antennes d'RMC et RMC Sport 1. Cyril Gane voulait entrer dans l'histoire du MMA français en devenant le premier champion UFC à sa troisième tentative chez les poids lourds. Problème, il n'y a pas eu de vainqueur entre Gane et le tenant du titre Tom Aspinall. Le combat a été interrompu pour une histoire doigt dans les yeux. C'était hier soir sur RMC.
Malheureusement, c'est instable.
Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Et on voit Cyril qui a un genou qui est extrêmement déçu.
Waouh, c'est 3 mois de travail.
3 mois pour Palou comme ça. 3 mois de sacrifice pour lui. 3 mois de sacrifice énorme.
3 mois de sacrifice énorme qui s'arrête pour Cyril Gane en quelques secondes parce que le combat a été arrêté à la fin du premier round car Aspinall, donc son adversaire, n'était plus en mesure de combattre, touché involontairement par Gane qui, en voulant le repousser, en fait lui a mis les deux doigts dans les yeux. Le Britannique conserve la ceinture. Il y aura un nouveau combat, on va en parler dans quelques instants avec Baba Diane. Le Français, lui, était très déçu après son interruption. À notre micro, c'est la punchline du jour.
RMC, la punchline GG.
Ça me rappelle le combat avec Derrick Lewis où j'ai pris un doigt dans l'œil où je voyais plus rien. J'ai continué à combattre même si je voyais de Derrick Lewis, tu vois. Donc je me dis, fais chier, putain, pourquoi il a pas essayé de pousser un petit peu plus. Mais bon, après il était peut-être pas dedans aussi, je sais pas. À la limite, m'aurait mis KO, je l'aurais mis KO, il gagne, je gagne. On aurait quelque chose de satisfaisant pour un camp ou pour l'autre, pour un pays, pour l'autre. Là, tout le monde est un peu dégoûté, quoi, de cette issue. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, si encore l'occasion se présente, on fera tout ce qu'il y a pour répondre présent encore une fois.
Dégoûté, Cyril Gane. Je vous le disais, on va retrouver Baba Diane qui a commenté ce combat pour RMC Sport il y a Abu Dhabi. Salut Baba.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Baba, tu étais au commentaire, on t'a écouté il y a quelques instants. Tu le disais, voilà, c'est 3 mois de préparation comme ça qui s'arrêtent en 2 secondes. C'est une catastrophe pour Cyril. Qu'est-ce qu'on sait ce matin? On sait un peu c'est quoi la suite? Il va y avoir un rematch. Qu'est-ce qu'on peut dire, Baba?
Ouais, absolument, hein. On était tous ensemble là-bas, ensuite en conférence de presse. On a notre envoyé spécial habituel, Yacine Zaouini, qui a posé la question à Dana White. Et donc on a eu comme réponse qu'il y aurait une revanche dès que ce sera possible, probablement début 2026. Et Dana White l'a dit lui-même, hein, que ça fait chier entre guillemets, parce que c'est pas l'issue que tout le monde attendait. Il n'y a pas de résolution, personne ne ressort satisfait de ça. Donc il va falloir le refaire.
Bah, vous avez vu tout le clan de Cyril, j'imagine, avec les équipes d'RMC Sport hier. On l'a écouté il y a quelques instants. C'est quoi l'état d'esprit? C'est quoi? Il y a beaucoup d'amertume. Il sous-entend un peu. Est-ce qu'Aspinall n'aurait pas pu aller un peu plus loin? Qu'est-ce qu'il se dit?
Il y a beaucoup de déception du côté de Cyril Gane. Du côté de ses coachs, il y a un petit peu plus de philosophie, on va dire. On se dit que de toute façon, on était très bien parti et qu'on pourra refaire la même chose la prochaine fois. Maintenant, Cyril, c'est normal qu'il exprime sa frustration parce que lui a tout le poids des sacrifices, il a tout le poids des heures et des heures de préparation et d'entraînement. Donc, c'est un peu normal qu'il pense comme ça. Maintenant, on a tous vu les images. C'est clair que c'est difficile à dire. On peut pas se mettre à la place de Tom Aspinall. Par contre, l'image est très claire. Il prend les doigts dans les deux yeux et c'est très handicapant. Faut comprendre que quand on prend un doigt comme ça dans les yeux, ça fait gratter la rétine. On voit rien, on voit même double. Et c'est très incapacitant. Donc, il y a une ceinture qui est en jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans un combat comme ça. On peut pas en vouloir à Tom Aspinall de se dire, je peux pas continuer dans ces conditions.
Merci Baba d'avoir été avec nous depuis à Abu Dhabi pour les dernières infos. Bah oui, c'est vrai qu'on était tous en train de grimacer là quand, ouais, quand on entendait Baba nous décrire ce qui s'est passé, la rétine touchée. Alors voilà, on va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'Aspinall aurait pu continuer ou pas, parce qu'en fait on n'en sait rien.
On n'est pas dans ses yeux.
Mais la question, c'est est-ce que Cyril Gane peut s'en relever. Voilà, on le disait, c'est un peu une catastrophe pour lui. Il s'est beaucoup préparé, il s'est coupé du monde pendant 3 mois. mentalement, Jérôme, comment tu vois ça, toi, pour Cyril?
Ça va être dur. Je pense qu'il faut digérer cela. Maintenant, c'est un combattant, c'est un sportif de très haut niveau, c'est un sport qui demande de toute façon, ce genre de sacrifice pour aller chercher une ceinture UFC. Et il doit être capable mentalement de réitérer cette préparation et de la remettre en place. Il a un acquis, il a la prépa, il sait par où il est passé et il sait que le début du combat s'est bien passé. Donc ça va être un élément de motivation pour y retourner. Faut retourner au charbon, faut retourner s'isoler, se repréparer. Ce match nul, ce match à arrêter n'est ni une victoire ni une défaite. Elle est par contre plus encourageante malgré la déception pour Cyril Gane que pour Aspinall. Sur le départ de ce début de ce combat, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ça, c'est l'élément positif. Évidemment, après, il faut remettre les pendules à l'heure, repartir de zéro. Mais ça, de toute façon, c'est l'apanage de tous les sportifs de haut niveau. Il faut recommencer sans cesse.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, je pense qu'il va s'en remettre, oui, effectivement, parce que c'est un sportif de haut niveau et qu'il a l'habitude de se remettre la tête à l'endroit.
Imagine tous les sacrifices.
C'est hyper difficile parce que tu fais tous ces sacrifices. Tu sens que tu domines. Tu penses que tu as gagné, que d'un seul coup, on te dit non. En fait, c'est pas comme une compétition normale où tu joues.
Non, mais Fred, il pense qu'il va gagner. Des combats, il a pris des tôles et il est reparti.
Oui, mais ça n'a rien à voir. Prendre une tôle, au moins, c'est comme il l'expliquait. Il y a un résultat à la fin. Là, il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que tu repars de zéro sur quelque chose que tu dominais.
Pourquoi tu repars de zéro? Parce que tout le travail qui a été fait, il ne va pas être perdu.
Mais si.
Il y a des marqueurs.
Il faut recommencer sa préparation à zéro, se remettre dans la tête qu'on est sur une préparation à zéro. Et c'est extrêmement difficile de se remotiver. Je ne dis pas qu'il ne va pas le faire, encore une fois. Je pense qu'il va le faire parce que c'est un grand champion. Mais il faut arrêter de sous-estimer le fait que...
Je te prends l'exemple d'un autre sport que je connais mieux, le cyclisme. Des garçons, un mec comme Remco Evenepoel, il y a 4 ans, il prépare le Giro d'Italia. Il part 8 semaines en altitude. 8 semaines en altitude, seul, sur le TID. Il se prépare, il est au poids, il a les watts, il prend le maillot rose et la première semaine, pam, Covid. Mais le mec, c'est son métier, il est reparti, il a refait la même chose, il est revenu et il a gagné.
Tenter la ceinture, c'est pas aussi. Alors je dis pas que
je ne connais pas assez spécifiquement ce sport.
C'est beaucoup plus difficile
de prendre des coups.
Il a dominé le début du combat. Ça va laisser quand même un traceur positif.
Mais alors, objectivement, il faut s'appuyer sur ça, il faut construire sur ça. Ça, je suis complètement d'accord. Sauf que là, il repart à zéro. En fait, vous pensez qu'il repart.
Je comprends pas ce que ça veut dire le zéro.
Il repart à zéro parce que ça n'a pas compté ce match.
Bien sûr,
il faut l'oublier.
Non, parce qu'il était en train de démarrer. On sait que l'anglais, ses combats, il les plie en quelques minutes. Et il avait mis la pression en disant je vais faire la même chose avec Cyril Gane. Que Gane a plutôt très bien démarré ce combat. C'était même lui qui était plutôt, sur quelques minutes.
Oui, en fait, l'anglais, peut-être qu'il dit, j'ai quand même été un peu sauvé par l'histoire.
Mais enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois.
Peut-être aussi,
Je le perçois un peu comme ça. C'est qu'un peu l'anglais, il se dit, oh my gosh, je vais avoir une seconde chance.
Seconde chance, en fait.
Et Cyril Gane, il sait qu'il a déjà une seconde chance. Déjà, avec les deux combats perdus, de pouvoir rejouer la ceinture.
C'est déjà magnifique.
C'est déjà magnifique.
Il a déjà cette résilience.
Il a déjà cette résilience, il s'est construit là-dessus.
Oui, mais il a perdu. Enfin, encore une fois, il y a un résultat. Quand il n'y a pas de résultat, c'est complètement différent. Et par rapport à l'anglais, lui, il se dit effectivement, j'ai une seconde chance. Lui, il se dit, j'étais en train de me faire dominer, j'étais en train de perdre. Grâce à ça, j'ai une deuxième chance. Celui qui a le plus ascendant par rapport à ça, un est hyper frustré d'avoir perdu. L'autre, enfin, en tous les cas, de ne pas avoir gagné. Ouais. Et l'autre est hyper content d'avoir une deuxième chance de reprendre le combat. Donc, je ne sais pas sur qui il faut s'appuyer vraiment.
Mais l'anglais doit repartir de zéro aussi.
Bien sûr.
Ouais, en tout cas, il y aura un nouveau match, un nouveau combat entre Gane et Aspinall, début 2026, nous disait Babadian. Il y a quelques instants, depuis Abu Dhabi, où RMC vous a fait vivre ce combat. Dans quelques instants, le zapping, les amis. Vous allez me dire, je m'en fous pas. On va parler Formule 1, on va parler rugby, tennis également. Et on va continuer à parler voile, évidemment, depuis le départ de la Transat Café L'Or avec CMA CGM au village. Départ à 14h. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Havre.
Georges Quirino.
Au village de la Transat Café L'Or avec CMA CGM. Départ à 14h tout à l'heure. C'est la route du café. Hein, donc on est en train de se réchauffer du côté de Fred Veil, Sarah Pitkowski et Jérôme Pinault. On est en direct aussi sur BFM Normandie. Je vous le rappelle à la télévision. Tiens, on est au Havre. On va se déplacer quelques instants à la montagne en Autriche, à Zolden. C'est le départ de la Coupe du Monde de ski alpin, le coup d'envoi. Il y avait le slalom géant féminin hier. Les garçons aujourd'hui, les Dames Arjac, tu es sur place. Salut. Avec Alexis. Alexis Peintureau qu'on a retrouvé sur les pistes aujourd'hui. Hein.
Salut tout le monde, oui, ça fait plaisir de revoir Alexis qui a été blessé au mois de janvier, fracture du plateau tibial. Et donc c'était son grand retour, lui qui se concentre maintenant que sur le géant. Et il y a eu du bon malgré des conditions qui plus est très difficiles, enfin difficiles parce qu'il est parti dans une belle purée de poids dans le mur de ce géant de Zolden. Et il se classe 13e à 1 seconde 36 de la tête. Donc c'est plutôt bon pour Alexis Peintureau qui voilà disait qu'il n'y avait pas d'objectif de résultat aujourd'hui, mais surtout mettre de l'intensité sur les skis. Alors tout n'a pas été parfait, certes. Sur cette première manche, mais qui plus est, il va chercher une qualif en seconde manche. Et c'est le cas aussi de Thibaut Favreau, notre Français qui est juste derrière, 14e. Et puis le leader de cette première manche pour l'instant, c'est le Suisse Marco Odermatt avec un petit centième d'avance sur un Autrichien, Marco Schwartz. Et il nous restera encore 5 Français à passer parce que Léo Anguenaud lui a fait une faute d'intérieur. Il a malheureusement chuté. Donc 5 Français encore et Alexis Peintureau est 13e, Thibaut Favreau 14e.
Deuxième manche à 13h. On suivra ça avec toi, Léna, tout à l'heure depuis Zolden en Autriche pour la reprise de la Coupe du Monde de ski alpin. Tiens, on va accueillir un invité dans quelques instants, mais je voulais juste qu'on dise un mot en Formule 1. Hein, je vous rappelle, il y aura un Grand Prix à suivre ce soir. La fin de saison est fascinante. Grand Prix au Mexique. C'est Lando Norris qui va partir en pôle du Grand Prix ce soir à 21h. Sa dernière pole position, c'était à 3 mois jour pour jour. Hein. Verstappen partira 5e. Piastri, le leader du championnat du monde, 7e. Ça commence à être chaud pour Piastri là quand même. Hein.
Et il est en train de rentrer dans le Money Time.
Ça souffle dans sa nuque.
Ça siffle dans sa tête surtout.
Oui.
Norris qui a une énorme occasion de repasser devant au classement des pilotes. Je rappelle qu'il est deuxième à 14 points de Piastri. Hein. Ouais, vous pensez, c'est vrai qu'on parlait hier de Norris.
On a quand même l'impression que ça va arranger McLaren.
Ouais, McLaren préfère peut-être avoir Norris comme.
C'est l'impression que ça donne dans tous les cas. Oui, oui.
Alors plus il gagne et met un petit coup sur la tête aussi à Max Verstappen qui part pas parmi les premiers aujourd'hui. Ouais. Ce sera important. Et ce sera important surtout d'écouter Jean-Luc Roy.
Mais c'est toujours important.
Pour commenter ce départ évidemment et toute cette course au Mexique. On est ici au Havre, je vous le disais, départ de la Transat Café L'Or. On va traverser l'Atlantique du Havre jusqu'à Fort-de-France. Un nouvel invité avec nous autour de la table, c'est François Lambert, directeur général de l'École nationale supérieure de la Marine. Bonjour François.
Bonjour Georges.
Bienvenue dans les grandes gueules du sport, parce que là on Merci. Parle des grands voiliers qui sont devant nous. Bon, déjà il faut savoir naviguer, et pour savoir naviguer il faut être formé. C'est ce que vous faites, on peut présenter un petit peu comme ça l'École nationale supérieure de la Marine.
Oui, alors enfin, tous les navigants, tous les concurrents ici ne sont pas passés par l'École nationale supérieure marine.
Et c'est bien dommage.
C'est une idée Fred. Voilà. Je propose qu'on inscrive ça pour le prochain programme.
Exactement.
Non, l'idée c'est nous on forme des officiers de la marine marchande et aussi des ingénieurs en génie maritime. Et il se trouve qu'il y a quelques coureurs qui sont passés par cette école parce qu'en fait on est tous dans le même monde, monde maritime.
Dans le même bateau.
Ouais. On a d'autres comme ça.
Moi je suis là pour ça.
C'est juste pour savoir. Non mais c'est une école qui forme historiquement depuis près de 500 ans des officiers de la marine marchande, des connaisseurs de l'océan. Et effectivement il y a quelques coureurs qui sont passés par cette école comme Corentin, Charles Caudrelier qui avait gagné il y a 2 ans. Voilà.
C'est une fierté pour vous de voir les
bah, c'est une très grande fierté, mais au-delà de ça, c'est un projet de territoire. Cette école, elle a été construite ici dans les années 1680. C'est une école qui fait la fierté de la France maritime. Il y a beaucoup de destins qui sont passés par cette école. Mais au-delà de ça, c'est une vraie fierté de pouvoir, au moment de cet événement qui est la Transat, rayonner à partir de cette installation, accueillir des conférences, accueillir des visites, et puis faire que les petits garçons, les petites filles qui se promènent sur les quais et qui viennent voir leurs champions préférés qui vont traverser l'Atlantique, eh ben, ils passeront peut-être un jour par l'École nationale supérieure maritime.
Parce que vous l'avez dit, donc il y a des passerelles entre le sport et la marine marchande, vous l'avez dit avec Charles Caudrelier notamment. Il faut former de plus en plus de marins aujourd'hui à la voile, notamment parce que ça évolue aussi la marine marchande, François.
Alors il faut former de plus en plus de marins, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est dans un exercice qui s'appelle le Fontenoy du maritime. Il y a un petit peu de cohérence dans les politiques publiques, ça en fait partie. On doit doubler le nombre d'officiers diplômés par l'école entre 2021 et 2027.
Alors pourquoi ?
Oui, pourquoi ?
Eh bien, parce qu'il y a un enjeu de souveraineté qui est important, c'est-à-dire que l'État, depuis quelques années, a misé sur le pavillon français pour faire que nos marchandises arrivent dans les ports français à partir de navires français et donc des navigants français qui sont à bord des navires français. Voilà, tout ça pour dire que c'est aussi ça, la réussite des grands groupes comme CMA-CGM, comme Ponant, comme Louis Dreyfus plus armateur, qui a de nouveaux arrivants. Je pense à Knudsen, je pense à tout le secteur énergétique. Et puis, vous avez raison, il y a des encore plus neufs, des encore plus jeunes, ceux qui arrivent à la voile. Et ça, c'est une histoire assez étonnante, parce qu'on a eu 20 siècles de décarbonation, un monde qui était à la voile, un monde maritime qui ne connaissait que cette propulsion. On est passé ensuite à la vapeur, et puis après on a fait le tout pétrole. Mais aujourd'hui, ce monde, il se remet en question, et ça passe aussi par une bonne cohérence avec le milieu de la voile de compétition. C'est-à-dire qu'on voit des François Gabart, des gens comme ça qui d'abord mettent en place une écurie Merconcept, et puis qui, quelques années après, se disent je peux aller vers un nouveau concept à Vela. Ils ont annoncé donc la différentes choses cette semaine avec toute son équipe. Et puis il y a pas que lui, hein, il y a Neoline évidemment, soutenu par le groupe CMS-CGM. Il y a Tote, hein, qui est un armateur havrais, qui a fait arriver deux nouveaux navires. Il y en a un qui était juste à côté de l'école. Donc on est très heureux de faire ça. Et c'est vrai que les jeunes qui viennent se former à l'école, de plus en plus sont liés à cet enjeu de la décarbonation et viennent pour pouvoir naviguer sur des cargos à voile.
On est avec François Lambert, directeur général de l'École nationale supérieure de la marine. Je rappelle, CMA-CGM, propriétaire du groupe RMC BFM, pour être tout à fait transparent avec vous qui nous écoutez également. Vous avez parlé de François Gabart, vous avez parlé de décarbonation, pour qu'on comprenne bien. On parle de cargo à voile. On parlait avec Fred Weiss, qui est halluciné.
Ça paraît complètement fou. C'est vrai qu'on a connu que ces
grands cargos avec les conteneurs. Aujourd'hui, on peut les déplacer avec des voiles.
Alors, les conteneurs, oui, on peut le faire. Dans l'absolu, on peut le faire, mais c'est aussi d'autres types de transports. Il n'y a pas que le conteneur, c'est très important. C'est ce qui régule le monde maritime depuis les années 60, hein, c'est ce qui standardise finalement l'emport de la marchandise. Mais il y a d'autres choses, il y a aussi des palettes, il y a aussi du conventionnel. Dans ce cadre-là, vous avez ces armateurs que j'ai cités qui se mettent en place. On peut penser aussi à Grand Sail. Il y en a plusieurs, et c'est pour l'instant des petites entreprises, mais peut-être que Fred va un jour embarquer sur ces navires-là.
Fred,
en tout cas, nous on propose des formations.
C'est ce que j'allais dire, vous aujourd'hui, l'école évolue aussi avec son temps. Ouais. Vous proposez des formations pour que les marins d'hier soient plus expérimentés pour guider et pour piloter ces nouveaux navires.
On fait trois choses différentes. Nous on forme des officiers de la marine marchande, des ingénieurs en génie maritime en formation initiale, et donc il faut leur donner une compétence maritime. Donc c'est les jeunes qu'on forme aujourd'hui qui rentrent juste après le bac ou après une reconversion, ça peut arriver, et il faut qu'on leur donne un maximum de compétences sur les enjeux de décarbonation, et notamment sur le Vélic. Donc progressivement ça va prendre de la place dans nos formations. Et puis on forme aussi en formation continue, c'est pour ça que je pensais à ça pour toi. Dans quelques jours on fait un stage à Nantes, il nous reste de la place. On fait ça avec l'École nationale de voile et des sports nautiques, hein, on fait un double parcours, et pour l'instant c'est un stage qui dure une semaine, mais dans l'absolu c'est des choses qui vont se développer. Et puis on a un troisième aspect qui est la construction, hein, la construction vélique. On veut travailler là-dessus et faire que le NSM puisse tirer aussi avantage de cette révolution qui s'engage.
Merci beaucoup François Lambert, directeur général de l'École nationale supérieure de la marine. Vous pouvez embarquer.
J'ai hâte de voir la taille des voiles quand même pour bouger un cargo.
C'est des voiles énormes, mais c'est surtout ce retour finalement à la marine à voile qui est intéressant dans l'innovation que ça génère. Moi, je veux vraiment insister là-dessus. On n'est pas sur un retour en arrière, on est sur une innovation. Il y a une innovation incrémentale qui est très importante. C'est de la propulsion principale, c'est aussi de la propulsion auxiliaire. Et tout ça, on va en parler dans le cadre des assises de l'économie de la mer dans quelques jours. C'est là aussi que la France maritime se réunit et puis peut penser à l'avenir.
C'est l'avenir de la mer, effectivement. Merci beaucoup, François Lambert. Les passerelles entre la marine marchande, le sportif, avec le départ de la Transat Café L'Or que l'on suit ensemble ici depuis le village avec CMA-CGM. Merci beaucoup. Les grandes gueules du sport, Fred Weiss, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski, on revient dans quelques instants. Tiens, on va parler basket, Fred. Wembanyama enfin, qui affole la terre entière. Est-ce que c'est pas lui, finalement, l'élu de demain? Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport en direct du Havre.